أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة رفق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله وتركا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام, je vous ai dit la semaine dernière que le premier contact entre ciel et terre, que la première recommandation divine, la première injonction, la première obligation faite au prophète alayhi salat wa salam par Allah subhanahu wa ta'ala et à travers lui à toute la umma, à toute la communauté et toute l'humanité bi'idnillahi azza wa jal soit lit, iqra, ça dénote d'une manière claire, nette et précise que cette religion, que l'islam, que notre religion est une religion qui se base sur le savoir et la science bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ça dénote sans ambiguïté que cette religion bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala sa clé c'est la science et le savoir. Et que la science et le savoir, non seulement c'est la clé de la religion, mais c'est la clé aussi de la réussite dans ce bas monde et de la réussite dans l'au-delà. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ça dénote sans ambiguïté, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, que les musulmans ont une obligation, ils se doivent d'exceller dans tout les domaines de la science, bi'idnillahi azza wa jal, même les domaines dans lesquels les autres nous ont précédés, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et d'une manière générale, ça dénote de l'importance de la science et du savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'aimerais bien avec vous encore prolonger cette droite qui parle de l'importance de la science et du savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à travers un autre prisme, bi'idnillahi azza wa jal, j'aimerais bien parler de l'importance, du rang, de la valeur des savants dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, quand on parle de la place qu'occupent les savants dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière cela, on peut s'en rendre compte de la valeur de la science et du savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, à travers un certain nombre de comparaisons, bi'idnillahi azza wa jal, sallu ala rasulillah. Vous savez tous, chers amis, que les dignes héritiers des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des savants. L'une des vertus principales des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le savoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que la mission des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se décline, si vous voulez, en trois points. Un, c'est la da'wa, c'est la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, c'est al-ta'lim, c'est enseigner aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et trois, bien sûr, c'est éduquer les gens sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que même après la mort d'un prophète ou d'un messager, parle de notre prophète alayhi salatu wa salam, le savoir reste. Il ne s'élève pas, il ne disparaît pas avec le prophète alayhi salatu wa salam. La mission du prophète alayhi salatu wa salam, qui est la da'wa, la transmission du message d'Allah azza wa jalla, enseigner la religion et éduquer les gens selon les principes de la religion, ça ne s'élève pas, ça ne disparaîtra pas, mais ça doit rester éternellement jusqu'au jour du jugement bi'idhnillah azza wa jalla. Sauf que elle passe des prophètes et des messagers à une autre catégorie de gens qu'on appelle al-ulama, qu'on appelle les savants, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que les savants sont les dignes héritiers des prophètes et des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, dans ce sens-là, il y a un hadith exceptionnel, extraordinaire du prophète alayhi salatu wa salam. C'est le hadith dans lequel il nous dit « Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah » dans une variante « Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah » Celui qui va emprunter un chemin, le chemin de l'acquisition du savoir, dans lequel il est demandeur du savoir, dans lequel il est apprenti, il veut apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit Nabi alayhi sallam au fait, c'est un chemin qui mène au paradis bi'idhnillah azza wa jalla. Et d'ailleurs, rien que cette partie du hadith, ça nous enseigne un certain nombre de choses bi'idhnillah azza wa jalla. Un, on ne se proclame pas savant du jour au lendemain. Pour être savant, c'est un long chemin bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. C'est des recherches et des recherches, c'est des années, soit, sauf, si on va bénéficier d'un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un prodige d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jalla donne à une personne le savoir. Ça, Allah azza wa jalla peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour le commun des mortels, pour devenir savant, pour avoir une science, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'énergie. Donc il faut faire énormément de choses, bi'idhnillah azza wa jalla. On ne peut pas se proclamer ou s'autoproclamer un savant. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent par l'imam Google, par l'école de la conception des savants qui s'appelle Google. Il va lire un hadith, il va lire un verset, il va lire une fatwa, et il va s'autoproclamer un savant. Subhanallah. Drôle de façon de devenir savant. Pour devenir un plombier, il te faut un diplôme, il te faut une formation. Pour devenir je ne sais pas quoi, il faut un diplôme, il faut une formation. Et pour devenir savant dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais un passage par Google et tu deviens savant. Non seulement il devient savant, mais il devient virulent envers les vrais savants. Aujourd'hui, tu entends des gens qui n'ont aucune science. Ce n'est pas qu'ils n'ont aucune science. Qui n'ont aucune, comme on dit en arabe, adep. Qui n'ont aucun bon comportement. Insulter des savants. Tel savant, il est nul. Tel savant, il est innovateur. Tel savant, il est égaré. Tel savant, il est ici. Et comme ça n'a pas suffi, on est parti, voire même insulter les imams qui font unanimité. Vous savez, entre les quatre grands imams, les quatre grandes écoles, par exemple, on dit « Ida bori dhukir al-a'immatul arba' fa malikul najm » Quand on parle des grands quatre savants, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa ou l'imam Ahmed, « fa malikul najm » La star, c'est l'imam Malik. L'étoile qui se dégage, c'est l'imam Malik. Et tu tombes sur un abruti, d'un abrutisme complexe, hein, qui te dit, c'est pas l'imam Malik, c'est l'imam Malik. Mais quel culot, subhanallah. Mais comment peut-on dire que je suis musulman alors que je peux m'attaquer à un savant en oubliant que la chair des savants, elle est empoisonnée au niveau de la yadou. Donc normalement, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit tout simplement qu'on ne s'autoproclame pas savant, mais pour devenir savant, c'est un long chemin bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et de deux, faut jamais mépriser quelqu'un qui est en train de chercher le savoir, qui veut acquérir le savoir. Les projecteurs dans l'islam, ils ne sont pas uniquement braqués sur celui qui est savant, mais même celui aussi qui cherche à acquérir le savoir. Deuxième point, c'est que l'une des plus grandes adorations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement l'acquisition du savoir. C'est justement chercher le savoir. C'est justement devenir savant. C'est justement apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma » Ça, c'est une voie royale qui mène où? Qui mène au paradis. Sauf qu'il y a un problème chez les musulmans aujourd'hui. on donne beaucoup plus d'importance à des actes pieux que d'autres. On insiste beaucoup sur la prière. Hier ou avant-hier, je rencontrais quelqu'un, il m'a dit, c'est pas vrai, il y a une mosquée dans laquelle, que je fréquente, ils ouvrent la chire 5 minutes avant, ils ferment 5 minutes après. On n'a pas le temps de prier, nous. C'est très bien d'insister sur la prière. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien sûr. Il y a des gens qui insistent sur le jeûne. Il y a des gens qui insistent sur ci, sur cela, et ainsi de suite. Mais jamais tu trouveras des gens qui insistent sur le savoir. Jamais, au grand jamais. Ça fait 25 ans que je suis à Marseille. Ça fait presque 25 ans que je suis imam à Marseille. Jamais quelqu'un est venu me voir me dire, cher, est-ce que tu ne peux pas le faire à Marseille? Et parfois, je vous appelle à des doros. Il n'y a personne qui est assis là-bas pour me dire, cher, tu as dit tel jour que tu voulais faire telle danse, est-ce que tu ne peux pas venir le faire danse? Et pourtant, on a besoin. On a besoin. Je vous pose une question. C'est quoi Ossoul le faire? Et ils sont les seuls qui s'appellent Ossoul le faire. Il y a quelques-uns qui connaissent ça, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'on est tous des ignorants. Non. Mais la quasi-majorité ne savait pas, ne sait pas ce que ça veut dire Ossoul le faire. Et alors, on l'apprend, on n'apprend pas. On a des lacunes, que ce soit dans la Sira, que ce soit dans l'histoire de l'islam, que ce soit dans Al-Fiqh, dans la jurisprudence, que ce soit dans l'ulum al-Qur'an, le sens du Coran. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi la définition du Coran mécois? C'est quoi le Coran midinois? On ne sait pas. Aujourd'hui, dans l'ulum, dans la science du hadith, on entend beaucoup hadith sahih, hadith authentique, ça, si je ne sais pas. Mais si tu demandais à n'importe qui, c'est quoi la différence entre un hadith et un hadith qudsi? On est incapable de répondre à ça, subhanallah. On était incapable de répondre à ça, mais on est content, et ainsi de suite. Oui, c'est un problème chez les musulmans, on insiste sur certaines choses, et on n'insiste pas sur d'autres, alors que les autres aussi ont beaucoup de poids auprès de la subhanahu wa ta'ala, et surtout le savoir et l'acquisition de la science et du savoir, bi'nillahi azza wa jalla. Et donc, comme je vous ai dit, les projecteurs dans l'islam ne sont pas uniquement braqués sur celui qui enseigne, sur le savant, mais aussi celui qui est là à chercher le savoir. C'est pour cela, dans la suite du hadith, comme ça nous dit, « Wa innal malaika la tabsitu ajnihataha li talibi l'ilmi ridha anbi » En guise d'humilité, en guise de respect des anges envers celui qui veut apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, al malaika, les anges font quoi? Ils vont déployer leurs ailes. Ça veut dire que c'est un respect de la part des anges pour celui qui cherche le savoir. Et quand on passe du degré d'élève, d'apprenti, de talib ilm, au degré de savant, bien sûr, notre rang, notre valeur, elle augmente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Nabi Sallam nous dit « Wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi al-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-bahar » Le savant, les gens qui sont dans les cieux, les gens qui sont sur terre, les gens qui sont dans l'univers, implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. À qui? Au savant, à celui qui apprend aux gens la religion, le savoir et la science, même qu'il n'a bien alayhi sallallahu alayhi wa sallam, les poissons. Et dans une autre variante, les fourmis dans leur trou implorent le pardon de l'Esprit de la peau, celui qui enseigne, celui qui donne, celui qui distribue la science et le savoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement, Yahweh encore, que l'univers, depuis le trône de l'Esprit de la Ta'ala, dans toutes ses constituantes, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte le savant. Il respecte celui qui a la science. Et qui c'est qui ne respecte pas celui qui a la science? Il est savant, comme je viens de le dire. Ce sont ceux qui sont normalement censés respecter les savants et la science. Ce sont les musulmans. De partout, on respecte ces sciences, ces savants. En médecine, on respecte les savants de la médecine. En astronomie, en physique, en mathématiques, en informatique, dans tous les domaines, on respecte ceux qui ont la science. Et quand on arrive à la religion, comme je vous ai bien de le dire, tu trouves quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, quelqu'un de raté, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la religion, il est le seul qui peut critiquer un savant, subhanallah. Non, nous, on se taire. S'il y a quelqu'un qui doit respecter les savants, ça doit être le musulman, bin Azzawajal. Donc cette partie du hadith, elle nous dit tout simplement que on se doit et on doit de respecter les savants, ceux qui ont la science, ceux qui ont le savoir, bin Azzawajal. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Et la différence, si vous voulez, car le savant sur l'adorateur, c'est comme la différence qu'il y a entre la lune et les autres étoiles d'Inna Azzawajal. C'est une comparaison vers laquelle je vais revenir au deuxième point d'Inna Azzawajal. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ. Et les dignes successeurs héritiers des savants, des prophètes, ce sont les savants. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَبِيُوَلِّثُ دِرَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Qu'est-ce que les prophètes ont légué? Qu'est-ce que les messagers ont laissé derrière eux? Les appartements, les terres, le commerce, l'argent? Absolument pas. Ce que nous ont laissé, ce que nous ont légué les prophètes et les messagers, c'est la science, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont pas laissé ça, et donc ces savants-là, ils vont hériter de quoi? Ils vont hériter de la science et du savoir des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Et celui qui va s'accaparer de cet héritage des prophètes et des messagers, celui qui va acquérir la science et le savoir laissé par le prophète et les messagers, lui, c'est quelqu'un qui a pris, qui s'est accaparé, qui s'est taillé la, j'allais dire, la part du lion de ce qu'on peut avoir dans la vie d'Inna Azzawajal. Et ça nous ramène au hadith de la semaine dernière, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit la vie d'ici-bas est maudite, et tout ce qui la constitue est maudite, sauf quatre choses du Nabi alayhi wa sallam: dhikrullahi wa mawala, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui gravite autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa aliman wa muta'allima. Les quatre vraies valeurs qu'on peut avoir, sur lesquelles on peut se disputer si vous voulez, sur lesquelles on doit normalement faire de la compétition si vous voulez, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui tourne autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être un savant ou bien essayer d'être talib ilm, acquérir le savoir, d'être un apprenti de la science et du savoir, surtout la science et le savoir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les quatre vraies valeurs. Et donc, celui qui va avoir l'héritage du prophète qui n'est bien sa salam, celui-là, il a été vraiment coopté, choisi, aimé, choyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah azza wa jalla nous dit dans un verset de la sourate al-Baqarah, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. Et donne la sagesse à qui veut. La sagesse, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un bienfait, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ. Et celui à qui on a donné la sagesse, فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. La meilleure des choses qu'on peut avoir, la meilleure des choses qu'on peut conquérir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sagesse, c'est la science et c'est le savoir. Et qui c'est qui va se rendre compte de ça? وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ce sont les gens doués d'intelligence qui vont connaître la valeur de la science, du savoir et de la sagesse. Maintenant, malheureusement, pour un musulman, les vraies valeurs, c'est quoi? C'est l'argent, c'est les enfants, c'est le pouvoir, c'est cela, ainsi de suite. Donc, à travers ce hadith, on peut se rendre compte de la valeur des savants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par transitivité, si vous voulez, par ricochet, si vous voulez, on peut se rendre compte de l'importance du savoir et de la science auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu hadha alladhi tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Deuxième point qui dénote de l'importance des savants, de la valeur, du degré qu'ont les savants dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à travers une comparaison avec Allah Azza wa Jalla, c'est de comparer, comme je viens de le dire, entre un savant et un adorateur, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit de comparer un savant à un adorateur de Dinah Azza wa Jal? Et bien sûr, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un Nabi alayhi salatu wa sallam qui a fait la première comparaison entre un savant et un adorateur, Inch'Allah Azza wa Jal. C'est au prophète alayhi salatu wa sallam qu'on a parlé de deux personnes. La première est savante, c'est un savant, et la deuxième, c'est une personne qui adorait Allah tabaraka wa ta'ala. Et au prophète, alayhi salatu wa sallam, de dire « Fadlu l'alimi ala l'abidi ka fadli ala adnakum. Wa inna allaha wa malaikatahu wa inna allaha wa malaikatahu wa ahlu samawati wal aradhin hatta l'houtu fil ba وحتى النمل في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. La différence, l'avantage qu'a le savant sur l'adorateur, c'est comme la différence qu'il y a entre le prophète alayhi salatu wasalam et la dernière personne musulmane, et le dernier des croyants, et le dernier des cheminants, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Dans notre variante, c'est la différence, c'est comme la différence entre la lune et les étoiles. On ne peut pas faire beaucoup, on ne peut pas en tirer beaucoup de ça, surtout le conduit pour les gens. Et quand on leur parle de lune, quand on leur parle des étoiles, quand on leur parle d'astronomie, ils la confondent avec l'astrologie. Ah non, l'astrologie, c'est du shirk, c'est du kofar. On parle de deux choses qui sont différentes. On parle de l'astronomie, pas de l'astrologie. Et d'ailleurs, l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'univers un des cinq thèmes de Al-Qur'an al-Karim. Le 1/5 de Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala parle de quoi ? Il ne parle de l'univers. Il ne parle d'astronomie, entre autres. Donc il ne parle pas d'astrologie. Essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un autre exemple. Pour comparer entre le savant et l'adorateur, c'est pas la lune par rapport aux étoiles, mais c'est le prophète alayhi salatu wasalam par rapport au dernier d'entre nous, bi'idhnillahi azza wa jalla. D'ailleurs, on peut même comparer le Nabi alayhi salatu wasalam au prophète, au messager. Et est-ce qu'il y a photo entre le Nabi alayhi salatu wasalam et les autres messagers? D'ailleurs, le Nabi sallam dit Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Le jour du jugement, tout le monde sera derrière moi. Et même Adam alayhi salam sera derrière le prophète alayhi salatu wasalam. Est-ce qu'il y a photo entre le Nabi sallam et les messagers et les prophètes de l'Allah subhanahu wa ta'ala? Pas du tout. Est-ce qu'il y a photo même entre le Nabi alayhi salam et ses compagnons? Est-ce qu'on peut comparer entre Abu Bakr al-Siddiq et le Nabi sallam? Il n'y a pas photo. La différence, elle est énorme. La différence, un peu, on ne peut pas l'imaginer, subhanallah. Alors imaginez la différence qu'il y a entre le Nabi alayhi salatu wasalam et le dernier d'entre nous. Elle est énorme. Elle est inconsumérable, subhanallah. C'est ça, au fait, la différence entre un savant et un adorateur, surtout quand l'adoration, elle n'est pas savante. Surtout quand on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une science. Surtout quand on fait avant de comprendre et de savoir comment. Et ça, on le voit aujourd'hui. Et ça, on le remarque aujourd'hui. Notre adoration, il lui manque quelque chose d'essentiel. C'est la science. Il y a des gens qui font la prière et qui ne savent même pas c'est quoi les obligations de la prière. Ils ne savent même pas qu'est-ce que annule une prière. Qu'est-ce que annule un jeûne. Qu'est-ce que annule notre ablution. Qu'est-ce que annule un tel et un tel chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la prière et si on ne connaît pas c'est quoi la gestuelle de la prière, par exemple. C'est quoi les paroles de la prière? Comment voulez-vous que cette prière-là peut avoir un impact sur la purification de mon cœur et de mon âme? C'est quoi être debout, la station debout dans la prière? On ne sait pas. C'est quoi le synonyme de la station inclinée, al-rukou' dans la prière? C'est quoi le synonyme de la prosternation dans la prière? Oui, mais pourquoi dire la Fatiha? Que représente la Fatiha? Que veut dire la Fatiha dans une prière? Quelle est l'importance de la Fatiha dans le Coran, Al-Karim en lui-même, Béni Lech Azzawajal? Mais ça veut dire quoi, Seigneur Allah, Ibn Hamida, Rabbana, Walak Alhamd? Mais ça veut dire quoi, Allahu Akbar? Ça veut dire quoi, At-Takbir? Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, At-Takbir, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, Béni Lech Azzawajal. Mais pourquoi chaque geste doit être accompagné par At-Takbir? Ça aussi, on ne le sait pas. Il y a des gens qui jeûnent et qui ne savent même pas ce que ça veut dire le jeûne. Et quelle est la portée spirituelle du jeûne? Pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, jeûner, c'est de ne pas manger, c'est de ne pas boire, du coucher de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est tout. Aujourd'hui, le hajj c'est quoi? Les actes de le hajj c'est quoi? Quelle est la portée éducative? Quelle est la portée spirituelle de le hajj? Il y a des gens qui font des tours autour de la Kaaba, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ça va au moment, c'est quoi? On ne sait pas. Mais même لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك دمودا n'importe qui parmi les pèlerins, c'est quoi لبيك اللهم لبيك? On ne sait pas. Il ne connaît pas, subhanallah. J'ai toujours raconté une histoire qui m'est arrivée quand j'étais en marchant au puce. Vous savez, la mosquée du marchand, quand tu marches en puce, il y a un centre d'hébergement. centre d'hébergement, donc sa directrice, un jour, elle vient me voir, je vois. C'est juste avant d'ars. Elle vient, elle tape, bonjour monsieur, bonjour madame. Excusez-moi, je sais que ce n'est pas ni l'endroit ni le moment, mais c'est important pour moi de vous dire quelque chose. C'est quoi? L'Eid approche. En fait, le sacrifice approche. Et comme il y a énormément de musulmans, et peut-être exclusivement, il n'y a que des musulmans dans ce foyer-là, dans ce centre d'hébergement, elle me dit, j'aimerais bien commander deux agneaux, égorger deux agneaux, faire un couscous et t'inviter à nous parler de la portée spirituelle du sacrifice. T'as pas quoi? La portée spirituelle du sacrifice, je dois lui dire aux musulmans de d'abord. Regarde, elle pense à quoi? Mais nous, est-ce qu'on porte à, pense à la portée spirituelle du sacrifice? Vas-y, ramène à ta femme la viande le deuxième jour, le troisième jour, tu vas voir. Il y a des divorces, il y a des problèmes sans fin par rapport à ça, subhanallah. Et pourquoi tu n'as pas ramené la tête? Et pourquoi tu n'as pas ramené les pieds? Et pourquoi tu n'as pas ramené la tête? Et pourquoi tu n'as pas ramené ici, ainsi de suite? Non, et tu l'as ramené le soir et pas le soir. Oui, mais parce que le sacrifice doit se faire après la prière, ainsi de suite. On ne pense même pas à ça. Quand tu vois le spectacle extraordinaire qu'on donne dans les fermes, dans les abattoirs, elle est où la portée spirituelle, subhanallah, du sacrifice? C'est pour ça que je vous dis, quand l'adoration, elle n'est pas savante, elle pose énormément de problèmes. C'est Ali, radiallahu anhu, qui nous dit tout simplement, peu de science et de savoir, mieux que énormément de pratiques auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah lui-même qui nous dit, fa'lam annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik. Sache ensuite, implore le pardon de Subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire quoi? En amont, il faut la science et le savoir. Ensuite, la pratique. Nous, on mélange tout. Nous, on mélange tout. Au lieu de prendre un peu de temps pour apprendre à faire la prière, non, je vais venir et voilà. Et ça fera comme ça fera. Non, ça ne fera pas comme ça fera. Je dois tout d'abord savoir. Je dois tout d'abord apprendre. Ensuite, je dois pratiquer Binidahi Azzawajal. Et c'est pour cela que je termine avec ça, Binidahi Azzawajal. Et je vais laisser le troisième point ultérieurement, chez Subhanahu wa ta'ala. Et bien, ça, ça nous dit. عالم واحد فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد ان سول سافون ان سول فقيه كما دي nos amis marocains est plus fort auprès de Shaitan que 1000 adorateurs. Surtout, encore une fois, quand l'adoration, elle est pareille que la nôtre, ça veut dire d'unité, de toute science et de tout savoir. Surtout quand l'adoration, elle n'est pas savante, quand l'adoration, elle est ignorante. Donc, on a besoin de la science de l'Allah Azzawajal. Et cette comparaison entre le savant et l'adorateur démontre de l'importance de l'adorateur. Donc, de l'importance du savoir et de la science auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et dans la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le troisième point de comparaison, c'est entre les savants et les combattants dans le sentier d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et des martyrs. Le temps ne permet pas de détailler de cela. Inch'Allah Subhanahu wa Ta'ala, on laissera un autre moment, à une autre opportunité, occasion de l'Ilaha Azza wa Jal. Allah يجعل من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اسالك الغنى والرضا والهدى والتقى. اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا عن البلاء صابرا. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات لكل مطلب من الدعاء ولكل مطلب منه الدعاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقيم الصلاة.